Heureux celui qui garde les mains vides et laisse aux riches l'or et l'orgueil. Un roi grandit dans le pauvre comblé. Heureux celui qui, face à la violence, est lisse, tel un roseau sans défense. Les doux tiendront sur le monde ébranlé. Heureux celui qui sait le don des larmes, la grâce amère ou la lutte des armes. C'est l'affligé qui sera consolé. Heureux celui dont le cœur et la tête ont faim et soif de justice. Un jour viendra, il sera rassasié. Heureux celui qui saigne, mais qui sait pardonner, qui rend le bien pour le mal qu'on lui donne. Devant son juge, il paraît sans trembler. Heureux celui qui s'épargne toute fange. Du beau regard où se mirent les anges, il verra Dieu sans en être aveuglé. Heureux celui qui sème la concorde, des mots de miel dans les bouches qui mordent. Un arc-en-ciel viendra l'auréoler. Heureux tous ceux qu'on juge dignes du vieux mépris dont la croix est le signe, car du royaume ils possèdent la clé. Heureux les petits, heureux les humbles, heureux les pauvres. La grâce et la paix vous sont données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre Sauveur. Bienvenue à chacun d'entre vous pour ce culte, culte du souvenir durant lequel nous ferons mémoire des êtres chers qui nous ont quittés durant l'année écoulée. Ce qui nous réunit ce matin, c'est la conviction que notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants et que tous sont vivants pour lui. Nous avons la faiblesse de le croire et de l'espérer. Je vous invite à la prière. Prions. Ô Dieu de vérité, que des hommes divers nomment de divers noms, mais qui est l'un, unique et le même, qui est celui qui est en tout ce qui est, et dans l'union de tous ceux qui s'unissent, qui est dans la hauteur et dans l'abîme, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur comme une infime semence. Oui, Dieu de vérité, nous te louons de ce que tu nous exauces, car notre prière est déjà exaucée, puisqu'en nous adressant ensemble à toi, nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir et nous nous accordons. Et qu'avons-nous à demander encore si cela est accompli? Oui, que demander? Sinon que cela dure, éternel, le long de notre jour et de notre nuit. Sinon de t'aimer assez pour aimer tous ceux qui t'aiment et t'invoquent comme nous. Assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement. Assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal. Assez pour vouloir du bien à ceux qui te renient ou t'ignorent. Seigneur, donne-nous l'intelligence de ta parole, le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit. Donne-nous l'amour sans revers de haine. Donne-nous la force et la joie de la paix. Amen. Je vous invite à vous lever pour bénir l'Éternel. Je vous invite à vous asseoir. Oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. et sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel et que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés d'aucun bien. Nous allons poursuivre notre louange en chantant le psaume 92, les strophes 1, 2 et 4, le psaume 92. Je vous invite à vous lever. Dieu est lumière, ne soyons pas complices des ténèbres du mal. Il est le berger des brebis, ne soyons donc pas comme des loups, ni comme des chiens qui fuient à l'approche du danger. Il est le Seigneur et le Maître, ne soyons pas soumis aux idoles de la richesse et du pouvoir, ne soyons pas asservis aux préjugés et aux idéologies. Il est résurrection, ne laissons pas la mort dominer la vie, ne laissons pas la haine et la misère empêcher tout renouveau. Jésus est le Christ, ne faisons pas obstacle au royaume d'amour et de paix qu'il veut établir en notre monde. Amen. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Tu es notre Père, nous sommes tes enfants. Donne-nous de vivre pleinement sur cette terre et pardonne nos illusions et nos évasions. Accorde-nous de sanctifier ton nom dans chacun de nos gestes et chacune de nos paroles. Que notre vie soit un témoignage de ton règne, qui ne cesse de se manifester au milieu de nous. Et pardonne-nous pour toutes les résistances que nous opposons à l'accomplissement de tes projets. En te demandant le pain, nous voulons vivre dans la confiance. Alors délivre-nous de nos inquiétudes et de nos peurs du lendemain. En priant pour le pardon, Nous voulons te présenter nos propres rancunes. Nous te remettons nos blessures et les racines d'amertume qui subsistent en nous. Permets-nous d'entrer dans le service de la foi, même s'il nous en coûte, et libère-nous de notre orgueil, de notre convoitise, de notre peur. Prends pitié de nous. Amen. Sur la dureté de notre cœur, notre Dieu fait lever la douceur de son visage. Sur la tristesse de nos fautes, il fait lever la joie de son pardon. Sur notre angoisse, il fait lever la paix de son amour. Sur le vide et l'engourdissement de nos journées, la joie de l'élan retrouvé. Sur nos humeurs agressives ou déprimées, le grand calme et la paix. Dieu est là, Dieu fait grâce, Dieu pardonne. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Je crois que Dieu est amour, qu'il l'est sans calcul ni arrière-pensée, qu'il accepte chacun d'entre nous, homme d'affaires ou bien migrant, délinquant ou chef d'État, petit enfant ou homme de loi. Dans sa bonté, il nous confie à Jésus-Christ, son Fils, notre frère, pour aujourd'hui et pour l'éternité. Par la force de son amour, il nous insuffle élan et joie de vivre. Il nous appelle aujourd'hui à œuvrer en compagnon du royaume pour que naisse un monde juste et fraternel. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Pour le culte de ce matin, j'ai retenu un extrait de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 1 à 10. « Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps ? Je ne sais. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps ? Je ne sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi à cause de l'excellence de ses révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur ma route. Et je vous invite à chanter le cantique dans Louange et Prière. Nous prendrons le numéro 400, J'ai soif de ta présence, j'ai soif de ta présence, le numéro 400. Je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, C'est toi qui as mis en nous la curiosité de toi. C'est toi qui as allumé en nous ta lumière pour éclairer notre chemin. Tu as gréé notre foi, assurée ou tâtonnante. Dieu notre Père, nous te bénissons. Garde-nous de la paresse intellectuelle et spirituelle. Garde-nous des formules toutes faites et des mots creux dans les affaires de ce monde comme à ton sujet. Donne-nous toujours des mots vrais, sincères, honnêtes pour te parler et pour parler de toi comme pour parler de toute chose. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui nous parle de toi en vérité. Amen. Lorsque je suis arrivé à l'oratoire au mois d'août dernier, j'ai eu l'occasion de prêcher sur ce que j'ai appelé l'énigme de la mort de Paul. Cette mort sur les circonstances de laquelle le Nouveau Testament fait un silence absolu. Ce matin, j'aimerais m'attacher à une autre énigme paulinienne, mais qui concerne cette fois la vie de l'apôtre. Cette énigme, vous venez de l'entendre, c'est celle de l'écharde dans la chair. Je vous relis le verset de la deuxième lettre aux Corinthiens. Paul écrit « Pour m'éviter tout orgueil, il a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan chargé de me frapper pour m'éviter tout orgueil. » Alors bien sûr, que n'a-t-on pas dit et écrit sur cette écharde dans la chair et sur cet ange de Satan? Si j'en crois un commentaire déjà ancien, sous la plume du regretté Maurice Carrèze, eh bien on recense 167 hypothèses au sujet de l'écharde dans la chair. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas les passer toutes en revue, nous avons d'autres choses à faire cet après-midi. J'en mentionne simplement quelques-unes. Certaines touchent à la psychologie religieuse. Paul ainsi aurait connu la tentation du désespoir. Ou encore, le souvenir de son passé de persécuteur de l'Église le rongerait comme un remords. Ou encore, il souffrirait en permanence de l'échec de l'annonce de l'Évangile auprès de ses frères juifs. Sur un autre registre, encore plus pittoresque, l'apôtre serait taraudé par des pulsions sexuelles, toutes plus inavouables les unes que les autres, ce qui d'ailleurs en dit long sur la psyché de ceux qui élaborent de pareilles hypothèses. Sans oublier, enfin, un panel de maladies digne d'un dictionnaire médical. En vrac, je cite, l'épilepsie, des migraines, des coliques néphrétiques, la goutte, le paludisme, l'asiatique, bref, tout ce qui provoque ce que la faculté appelle les douleurs exquises. Et à cette énumération, on a envie de dire « arrêtez le massacre ». Alors, chers amis, pour essayer d'entrevoir ce dont il s'agit, il convient tout d'abord de replacer les choses dans leur contexte. Oui, il faut recontextualiser, comme diraient les historiens. Alors, que se passe-t-il ? De quoi s'agit-il ? L'église de Corinthe est en crise. Tiens donc. Paul est en conflit avec d'autres prédicateurs de l'Évangile, ceux qu'il appelle les super-apôtres. Ceux-ci que nous connaissons fort mal, puisque nous ne les connaissons que par le point de vue que Paul jette sur eux, ceux-ci, sans doute restés attachés aux observances du judaïsme, tout en ayant reconnu en Christ, en Jésus, le Messie, eh bien, ces gens-là remettent en cause l'évangile que Paul annonce aux Corinthiens. Et ils tentent, avec succès, apparemment, de le discréditer aux yeux de la communauté. Ces gens-là, ces super apôtres, il semble qu'ils accordent beaucoup d'importance aux phénomènes charismatiques et à l'effusion de l'esprit. Ils parlent en langue, ils exercent des ministères de guérison, ils accomplissent des miracles, ils connaissent des expériences de repos dans l'esprit. Alors Paul, pour les contrer, fait le choix de se placer sur le même terrain que ses adversaires. Car lui aussi a fait l'expérience des charismes. Lui aussi peut exercer un ministère de guérison dans la gloire et dans la puissance. Dans le livre des Actes, on nous raconte qu'il ira même jusqu'à réanimer un mort. Mais comme si tout cela n'était pas suffisant, Paul en vient à évoquer, je cite, « les visions et les révélations du Seigneur dont se targuent ses adversaires ». Et là, Paul nous en donne l'assurance, lui aussi, comme les autres, pourrait mettre en avant les visions et les révélations du Seigneur dont il a été gratifié. Il a été, vous l'avez entendu, enlevé jusqu'au troisième ciel, et là, il a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est même pas permis à un homme de redire. Humainement parlant, les révélations dont Paul a été le bénéficiaire sont pour lui un motif suffisant de s'élever au-dessus des super-apôtres. Mais voilà, dans tout cela, il y a un risque. L'apôtre reconnaît qu'il pourrait bien se glorifier de ces phénomènes extraordinaires et céder ainsi à l'orgueil de ceux qui se persuadent qu'ils sont les élus de Dieu. Et en cet instant précis, Paul révèle alors, fait l'aveu aux Corinthiens, que pour lui éviter une telle dérive, il a été mis une écharde dans sa chair. Un ange de Satan a été chargé de le souffleter. Certes, à trois reprises, il a prié Dieu de le libérer, mais il lui a été répondu, très clairement, que la grâce de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et désormais, si Paul veut s'enorgueillir, c'est dans la faiblesse qu'il doit le faire. Alors, frères et sœurs, pour bien comprendre le propos et l'argumentation de Paul, il faut saisir, je crois, que le sens en réside dans l'articulation de ces trois expressions qui s'enchaînent les unes aux autres. La faiblesse, l'écharde dans la chair et l'ange de Satan. Alors je commence par l'ange de Satan. Il se trouve que dans la deuxième aux Corinthiens, Paul parle de Satan à plusieurs reprises. Il le fait dans le cadre d'un discours de dénonciation de ses adversaires. Ces super apôtres, ce sont de faux apôtres. Ce sont des faussaires, camouflés, grimés en apôtres du Christ. Ce qui n'a rien d'étonnant, ajoute Paul, puisque Satan lui-même est capable de se déguiser en ange de lumière. L'ange de Satan, c'est donc le mauvais esprit qui excite les pseudo-apôtres à détruire l'œuvre de Paul. Ou dit encore plus crûment, sous ce vocable d'ange de Satan, Paul en fait désigne ses adversaires, ni plus ni moins. Et quand il précise que cet ange le soufflette, il emploie une image pour parler de tout ce que ses adversaires lui ont fait subir. Les avanies, les opprobres de tout genre qu'il a éprouvés de leur part. Leurs manières de faire sont violentes, elles ont pour but de faire du mal, et apparemment, ces gens-là ont atteint leur cible. Oui, ces violents, ils sont, pour Paul, comme une écharde dans la chair. Alors j'en viens maintenant à ce deuxième vocable. En vrai fils d'Israël, Paul l'emprunte à la Bible hébraïque. En effet, dans le livre des Nombres, alors que le peuple est sur le point de s'installer en terre promise, Dieu tient à Moïse un discours qui nous paraît à nous particulièrement scandaleux, puisqu'il lui donne l'ordre de procéder à la purification ethnique du pays de Canaan. Et Dieu ajoute, « Si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous aurez laissés vivants seront comme des piquants dans vos yeux, comme des épines dans vos flancs. Ils vous harcèleront dans le pays même où vous habiterez. » Des épines dans vos flancs, une écharde dans la chair, c'est la même chose. Paul, là encore, vise ses adversaires. C'est eux qu'il dénonce en employant ces deux expressions. Il se trouve que les Corinthiens ont toléré ou ont supporté avec indifférence les intrigues de ces super apôtres qui sont venus dans le dessein de saper l'œuvre de Paul. Certains leur ont même fait un excellent accueil. Et Paul se dit qu'il a fait preuve de faiblesse. J'en viens au troisième terme. Car il y a sans doute plusieurs manières d'interpréter cette faiblesse. Paul a peut-être eu peur du conflit, tout simplement. Ce n'est pas exclu. Il a peut-être aussi laissé faire et dire. Mais peut-être aussi que Paul a eu peur de passer pour un despote ou pour un petit chef. Après tout, les Corinthiens sont libres d'accueillir un autre évangile que celui que lui, Paul, proclame. Et puis, l'explication est même peut-être encore plus simple. Paul constate tout simplement qu'il n'est pas parvenu à énerver l'attitude agressive de ses adversaires, encore moins à les persuader qu'ils ont tort, pas plus qu'il n'est parvenu à convaincre les Corinthiens de la justesse de sa position. Son œuvre apostolique, elle est contrecarrée par ses apôtres et au sein même de l'église de Corinthe, sa prédication de l'évangile est contestée, voire même rejetée par beaucoup. Paul se dit faible parce que vraiment, il est en position d'infériorité. Il est faible tout simplement parce qu'il endure et il refuse le conflit. Il ne veut pas répondre aux coups par les coups. Pour l'instant, il encaisse les outrages, les détresses, les persécutions, les angoisses. Il se retrouve en situation d'échec. En d'autres termes, c'est la souffrance expérimentée dans toute adversité comme dans tout conflit qui est désignée par le mot de faiblesse. Oui, cette souffrance, elle est en corrélation avec les chardes dans la chair, avec l'ange de Satan. Elle signifie l'impuissance absolue de Paul en face de ceux qui le mettent à mal. Alors on comprend, On comprend, frères et sœurs, qu'à plusieurs reprises, Paul se soit tourné vers Dieu pour lui demander d'être secouru. Pourquoi alors cette prière n'a-t-elle pas été exaucée? Tout simplement parce que c'est à partir de cette situation d'échec, au cœur même de cette épreuve, que Dieu veut manifester sa présence. La victoire de l'Évangile, elle ne s'obtient pas à la manière des hommes, qui trop souvent ne savent que s'entre-déchirer, parfois pour la cause même de l'Évangile. L'Évangile ne triomphe pas non plus parce que ceux qui se réclament de lui feraient preuve de grandeur d'âme et des vertus propres au cœur noble et généreux. L'Évangile triomphe par la seule grâce divine qui se révèle en dépit de tout dans le tumulte des hommes et des événements, dès lors que ceux-ci se reconnaissent faibles. Illuminé par cette intuition, Paul peut alors changer de point de vue. Il ne demande plus d'être délivré de l'hostilité de ses adversaires. Certes, tout cela l'épuise. Il n'est pas de taille à briser l'opposition. Mais celle-ci ne lui enlèvera plus désormais cette promesse de paix qui surpasse toute intelligence et toute pensée et qui vient au fond du cœur comme un don du Dieu qui fait grâce. C'est pourquoi de cette situation d'échec, Paul peut se vanter et se glorifier finalement. S'il faut s'enorgueillir, je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse. Dès lors, frères et sœurs, puisque Paul nous y invite, je voudrais me livrer, ici et maintenant, à un bref éloge de la faiblesse, pensée comme le lieu fondateur de l'expérience chrétienne. En effet, vous avez peut-être remarqué que Paul n'hésite pas à nous dire qu'il a été ravi au troisième ciel, ce qui constitue aux yeux de la mystique juive traditionnelle le lieu du paradis. À ce moment-là, des paroles indicibles lui ont été adressées et un grand secret lui a été révélé. L'apôtre a ressenti un avant-goût de ce qu'est la vie en communion plénière avec Dieu. Il faut prendre toute la mesure d'un tel propos. Paul est en train de témoigner que l'expérience mystique est possible. Elle ne relève pas de l'imaginaire ou de la pathologie. Un contact avec Dieu est possible, sans médiation, sans intermédiaire. On peut faire l'expérience de Dieu. Frères et sœurs, si cela vous arrive, tant mieux pour vous. Profitez-en, c'est très bon, ça fait du bien. Paul précise d'ailleurs, au sujet des paroles ineffables dont il a été le bénéficiaire, qu'il n'est pas permis de les redire. C'est d'ailleurs ce qu'il fait. Il ne nous livre aucune confidence à ce sujet. Le secret du roi est préservé. Heureux celui qui fait l'expérience, il n'est pourtant pas nécessaire de le crier sur les toits, alors qu'il y a tant de personnes qui vous disent qu'elles ont rencontré Dieu et qu'il existe, qui en font des livres d'ailleurs. Le plus important, voyez-vous, c'est que Paul prend ses distances par rapport à tous ces phénomènes. Il ne les nie pas. Quand cela lui est arrivé, il n'était pas dans la folie ou dans l'illusion. Il ne les renie pas non plus. Cette expérience était bonne. Mais il se refuse à en faire un argument dans la controverse avec ses adversaires. En se targuant de cette révélation, il pourrait en remontrer à ses opposants. Il n'invoque pas la rencontre avec Dieu pour légitimer son autorité d'apôtre et de conducteur d'église. Et même, il se refuse à fonder son identité de croyant sur ce vécu extatique. Pas question pour lui de baser sa vie d'homme et de disciple sur une expérience mystique. Parce que, comme je le disais, même si cette expérience est réelle, elle peut s'avérer néanmoins empreinte de vanité. Le sujet n'y est pour rien, et pourtant il peut être tenté de se croire quelqu'un, puisque Dieu est venu à lui en personne. Le risque, c'est que le croyant tire fierté de cette visitation de son Dieu. Le danger, c'est d'exhiber cette expérience comme une performance qui ferait de celui qui l'a expérimenté un virtuose de la religiosité, un être à part au-dessus de la commune humanité, un super croyant, un super chrétien. Alors, à ce moment-là, Paul nous propose une autre voie. Car voyez-vous, ces visions et ces révélations, elles risquent de nous arracher à notre condition humaine. Cette expérience mystique, était-ce dans son corps ou sans son corps? Paul ne le sait plus très bien. Mais ce qu'il sait de science certaine, c'est que l'expérience de la faiblesse, ce qu'il appelle l'écharde dans la chair, eh bien cette expérience-là nous ramène à la vérité de notre condition de personne incarnée, d'être de chair et de sang, qui éprouve des émotions et qui en sont affectées. L'expérience de l'écharde dans la chair, c'est l'antithèse absolue du ravissement céleste. Elle ne se déroule pas au ciel, mais sur la terre des hommes, non pas hors du corps, mais dans un corps souffrant, un corps douloureux. Paul, je l'ai dit, fait l'expérience d'une impuissance absolue en face de l'adversité. Il la décline à travers des termes sans équivoque, faiblesse, outrage, privation, persécution, angoisse. Cette expérience nous renvoie à la condition humaine en ce qu'elle a de plus universel. Qui d'entre nous ne s'est jamais retrouvé perdu, désemparé, angoissé? Il se trouve que l'esprit du monde nous pousse à vivre sans cesse dans la performance. Il faut prouver qu'on est un battant, un gagnant, parce que c'est le moyen d'être reconnu. La faiblesse, elle, elle est révélatrice de notre incapacité, de notre finitude. Elle nous fait prendre conscience à l'épreuve du réel qu'on est loin d'avoir les moyens de l'action que l'on veut mener. Elle se manifeste quand il y a des choses que l'on veut vivre sans y parvenir. Oh, ces choses, elles sont diverses. Il peut s'agir d'objectifs que l'on s'est donnés et qu'on se révèle incapable d'atteindre. On aime quelqu'un, mais on n'est pas aimé en retour. On se présente à un concours, on échoue, on bute sur des limites personnelles. Parfois, c'est le fait des limites ou des injustices de la réalité. Objectif ou non, la faiblesse entraîne toujours la désillusion. Il n'y a rien de plus dur que de reconnaître la réalité et la limite de ses forces intellectuelles, physiques, morales. C'est pourtant le moment, alors, de voir ce qu'on peut faire avec cette contrainte et de repérer comment cette faiblesse, reconnue et assumée, peut devenir un lieu de vie. Car ce que l'apôtre Paul suggère, c'est qu'en fin de compte, il n'y a pas de plus grand bonheur que de n'avoir plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, dès lors que l'on sait qu'on est aimé et reconnu tel qu'on est. Pour reprendre le titre d'un livre, d'un psychologue, Jacques Arène, il convient d'accueillir sa faiblesse pour en faire comme le socle sur lequel nous pouvons construire notre maison intérieure et l'habiter dans la paix et la sérénité. Accueillir sa faiblesse, oui, parce que c'est dans ce mouvement que Dieu vient à notre rencontre, à l'instant où nous n'avons plus rien à faire ou à offrir, et qu'il ne s'agit plus que de s'accepter, de s'ouvrir et de recevoir. Cette expérience de faiblesse est une expérience d'humanité. Jésus, lui aussi, l'a éprouvée. Il a été en proie à l'adversité. Dès les premières heures de l'exercice de son ministère d'évangéliste jusqu'à la croix. Comme Paul l'explique dans l'Épître aux Philippiens, Jésus aurait pu se revendiquer de prérogatives exceptionnelles du fait de sa proximité et de sa familiarité avec son Dieu. Mais Jésus a préféré la voie de la faiblesse en se dépouillant, en se vidant lui-même. Il a enduré la contradiction et l'opprobre. Tout cela l'a conduit à la croix. Alors que les hommes ne rêvent que de se placer au-dessus, upper, lui, Jésus, il s'est placé au-dessous, upo. Et la croix, en fin de compte, elle détruit notre imaginaire d'un homme omnipotent, d'un être de puissance et de gloire. Elle promeut, au contraire, un homme faible, un homme désarmé, un homme précaire. Toutefois, en relevant Jésus, Dieu atteste que le choix de la faiblesse est finalement le bon. Paul l'écrit en toutes lettres. Jésus a été crucifié dans la faiblesse, mais il est vivant par la puissance de Dieu. Oui, Paul appelle faiblesse du Christ l'adversité à laquelle Jésus a été affronté et par laquelle il a été submergé, mais il appelle vie la découverte que cette faiblesse est une brèche par laquelle notre Dieu peut s'engouffrer. Je conclus. L'expérience de la faiblesse, elle porte ainsi un fruit paradoxal. Elle me fait découvrir qu'au cœur même de la déréliction et de l'échec, au cœur même de la perte et du manque, la communion avec Dieu peut s'épanouir en plénitude. Alors que tout semble noir et paraît perdu, alors que la route se révèle impossible, alors que l'ange de Satan nous frappe au visage, une voix s'élève. Cette voix, elle console, elle conforte, elle relève, elle dit la simple vérité, « Mon enfant, ma grâce te suffit. » Amen. Nous allons chanter le cantique 308, « Confie à Dieu ta route », les strophes 1, 2 et 5. Donc le cantique 308, confie à Dieu ta route, je vous invite à vous lever. Quelques annonces concernant la vie de la paroisse. À l'issue du culte, aujourd'hui à midi, se déroule le repas paroissial, salle Monod. Beaucoup d'entre vous se sont inscrits, mais je pense que vous pouvez venir in extremis sans être inscrit. Lundi de 19h30 à 21h aura lieu le cours d'hébreu biblique pour les progressants. Et de 20h à 21h30, mon collègue, le pasteur Marc Pernaud, se lance dans son cycle d'initiation à la théologie chrétienne. Mardi, dans le cadre du cycle philosophie et théologie, c'est Philippe Godin qui présentera la pensée d'un philosophe très important du XIXe siècle, un peu méconnu, Auguste Comte, le fondateur du positivisme, donc philosophie et théologie, de 20h à 21h30, salle Monod. Mercredi 8, c'est le cours de grec biblique pour les avancés, de 15h30 à 17h30, en salle Monod. Jeudi, toujours les langues bibliques, l'hébreu biblique pour les débutants, de 19h30 à 21h, salle Verne. Le chœur de l'oratoire répète, comme tous les jeudis soirs. Et puis, jeudi, nous aurons le concert d'orgue, de présentation de nos organistes titulaires, Sarah Kim, qui joue l'orgue aujourd'hui, et David Cassan. Voilà. Donc, dans un répertoire très, très varié, vous êtes bien sûr conviés à ce concert. Samedi 11 novembre, j'animerai le temps de prière contemplative de 18h à 19h à la maison presbytérale au secrétariat dans mon bureau. Et puis dimanche prochain, le culte aura lieu à 10h30. C'est le pasteur Marc Pernot qui le présidera. Il y aura un temps d'accueil et de rencontre dans la sacristie à l'issue du culte. Et puis l'après-midi, c'est l'après-midi de l'oratoire, une rencontre pour aiguiser votre regard et mieux apprécier une œuvre d'art et son message biblique. Ce temps est animé par Laurence Tardy. Le rendez-vous est à la fin du culte, avec un repas à partager avant la découverte d'une œuvre d'art au Louvre. La vente se prépare, elle aura lieu donc le vendredi et le samedi 2 décembre 2017. Vous pouvez déposer les objets à donner pour les comptoirs. Vous pouvez le faire les samedis 18 et 25 novembre de 14h à 16h et le dimanche 26 novembre de 10h à midi. Vous trouverez également à la sortie du temple des personnes qui vous proposeront des gâteaux, une vente de gâteaux destinés au financement d'une activité humanitaire au Togo. Et puis vous l'avez entendu, il y a une participation chorale à notre culte ce matin. Un ami de mon épouse, qui est d'ailleurs devenu un ami, Sidney Fierro, nous a proposé d'intervenir dans le cadre de ce culte auquel il souhaitait participer. Il a eu la gentillesse de ce geste et il a réuni quelques amis chanteurs et chanteuses, Charles, Laure, Lucie, et ce sont eux qui sont présents ce matin et qui vont encore intervenir dans quelques instants. Je les remercie de tout cœur de venir rehausser notre culte de leur participation. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, et maintenant c'est le temps de l'offrande, ce détail qu'il m'arrive d'oublier. Soyez généreux. Comme tous les ans, nous faisons donc mémoire de celles et ceux qui nous ont quittés durant l'année écoulée. George Moore, Claire Jouffray, Paulette Delin, Jeanine Stoll, Jean-Diego Brusset, Jeanne-Marie Léonard, Edith Ève, Maria Rita Remond, Robert Forget, Blanche-Émilienne Fiori-Mercoiret, Marie-Lise Huguenin, Bernard Capelier, Olivia Lorsignol, Sylvie Jacquet, Jacqueline Cartier, Michel Hubert, Olivier Monod, Henri Tessier-Ducrot, Jacqueline Godina, Jean-Pierre Delin, Thierry Lucas, Marjorie Rochman, François Desvignes, Jerry Beloavec. Dieu notre Père. Nos mots peuvent t'évoquer, mais jamais de contenir. Nous voulons prendre un temps pour nous souvenir de celles et ceux qui nous ont précédés sur les chemins de la foi, de l'espérance et de la charité. De ceux qui pour nous ont été des témoins, des éveilleurs, des pédagogues, qui nous ont aidés à grandir et à découvrir la joie de te célébrer et de te servir. C'est pour les vivants que nous te prions. Nous te prions pour celles et ceux qui enseignent les enfants, qui animent des activités de jeunesse, celles et ceux qui prient et qui accompagnent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les prisons, dans les armées. Nous nous souvenons de celles et ceux qui n'arrivent pas à prier, qui peinent sur le chemin, qui ont peur des changements dans l'Église comme dans tous les espaces de leur vie. Prions encore pour confier à Dieu ce qui nous tient à cœur. Dieu très bon, transforme-nous pour que, généreux, confiants, dans l'attente du meilleur qui est devant nous, nous devenions vraiment semblables à Christ. Aide-nous à suivre Jésus avec passion plutôt que de l'admirer passivement. Fais de nos églises des communautés de disciples fidèles et des signaux tendus vers le ciel aux yeux de tous les hommes. Alors, en nous, par nous, et au besoin malgré nous ou en dépit de nous, que ton règne vienne. Et nous te le disons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père vous accompagne. Il est sur votre route de chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans la force et dans la faiblesse, dans le calme et dans la tempête, dans le travail et dans le repos, dans la solitude et dans la rencontre. Le Seigneur est avec vous, pour vous, aujourd'hui, demain, toujours. Que Dieu, notre Père, vous bénisse et vous garde. Allez et demeurez dans la paix de Dieu. Amen.